Ce serait une existence en perpétuel conflit, où l'unité voulue par notre Père serait vouée à l'échec. Notre existence, sans ce pardon, serait une vie constamment tournée vers le passé. Constamment tournée vers le passé. Le pardon est donc au cœur de notre salut. Au cœur de notre salut. Mais il est aussi au cœur de notre relation quotidienne avec notre Dieu. Et au cœur de la communauté de disciples. Il n'est donc pas étonnant que dans l'enseignement sur la prière, Jésus accorde à la démarche du pardon une place toute particulière. Et nous le verrons, que parmi les demandes, le pardon occupe une place particulière dans notre Père. Une prière, et c'est intéressant, que Jésus nous invite à prononcer seul. Seul. Bien évidemment, dans la conscience que nous sommes reliés à nos frères et sœurs, notre Père, ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. Hein? Toi, quand tu veux prier, dit Jésus, où est-ce que tu dois aller ? Dans ta chambre la plus retirée. Loin du brouhaha du monde. Et c'est une prière en général que nous sommes appelés à formuler en communauté. T'as rien contre, hein ? Mais j'ai peur que dans le brouhaha, justement, d'une prière communautaire, nous en perdions le sens. Que dans ce brouhaha des voix, notre concentration soit altérée et que nous perdions la profondeur des paroles que Jésus nous enseigne à prier. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Le pardon, donc, est au cœur de notre salut, au cœur de notre relation quotidienne avec notre Dieu et au cœur de la communauté de disciples. Le pardon, donc, au cœur de notre vie communautaire, c'est mon deuxième point. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Sans minimiser aucune des requêtes qui se situent dans ce « Notre Père », celle du pardon, comme je le disais tout à l'heure, bénéficie d'une attention particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est la seule requête qui est accompagnée d'un avertissement sous forme d'un commentaire. En effet, dit le commentaire à la fin de la prière, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Voyez, commentaire qui met vraiment en exergue cette demande sur la prière. Et cet avertissement, parce que c'est un avertissement, donne à cette requête un caractère particulier, très solennel. Elle attire notre attention d'une manière tout à fait particulière. Première leçon, me semble-t-il, que nous devons tirer de cet enseignement. Jésus nous invite à lier de manière très étroite le pardon du Père au pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Un lien très étroit entre les deux. Au point que l'un semble conditionné à l'autre. Et de ce fait, Jésus nous invite à réfléchir lorsque nous nous présentons devant lui à la qualité de nos relations fraternelles. Nous sommes effectivement appelés à entrer dans cette chambre secrète, dans le tête-à-tête avec notre Père. Mais dans ce tête-à-tête avec notre Père, nous y entraînons aussi nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Si nous sommes appelés à nous isoler pour prier, nous venons devant notre Dieu avec tout ce qui compose notre histoire, et particulièrement notre histoire relationnelle. Et la fameuse question, vous savez, de la Genèse. Vous ne vous souvenez plus de la question ? Où est ton frère ? Où est ton frère ? Et ces questions du début de la Genèse résonnent très fortement dans notre pièce secrète. Où est ton frère ? Nous ne devrions pas être surpris par ce retentissement, car l'appel à soigner notre relation avec notre prochain avant de nous présenter devant notre Père n'est pas nouveau. Il est rappelé maintes fois dans les Écritures. Et parmi les nombreuses citations, la plus marquante en rapport avec notre texte est celle de Matthieu, chapitre 5, verset 23. « Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu viendras te présenter. Tu viendras présenter ton offrande. » Je me demande, c'est comme ça un peu imaginé, si nous appliquions, nos églises appliquaient ça à la lettre, avant de poser notre offrande, nous nous réconcilions avec notre frère. Je suis sûr que bien des églises prospères financièrement verraient leur courbe, vous savez, la courbe qui indique l'état des finances, chuterait de manière dramatique. En général, lorsque nous parlons de faire un petit bilan intérieur pour savoir quel est l'état de notre relation avec Dieu, c'est souvent au moment de la scène. On appelle les gens à faire un travail. C'est pas ce que dit le texte. C'est pas au moment de la scène, mais au moment de l'offrande. Au moment de l'offrande. Ce qui veut dire, là encore, que notre culte à Dieu ne peut pas être séparé de la qualité relationnelle que nous entretenons avec nos frères et sœurs. La prière ne fait-elle pas partie également de nos offrandes régulières ? Le Nouveau Testament compare justement les prières à cet encens, ce parfum de bonne odeur qui monte au Seigneur. Et oui, la recommandation donc de Jésus à ses disciples est donc de faire précéder la régularisation de nos différends avec notre prochain, notre frère ou notre sœur, de notre offrande à Dieu. Va réfléchir, hein ? Laisse-la ton offrande. Ce n'est pas la priorité. Priorité, c'est ta relation avec ton frère et ta sœur. Où est ton frère ? Où est ta sœur ? C'est la deuxième leçon qui ressort de notre texte. Notre quête du pardon dans la prière du Notre Père met en avant le pardon que moi-même j'ai déjà accordé à ceux qui m'ont offensé. Et je dis bien « déjà accordé ». Pourquoi ? Parce que le verbe est au passé. Le verbe est au passé. Il n'est pas au futur, mais au passé. Comme nous allons pardonner, non ? Comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Je viens implorer le pardon de Dieu en pleine conscience que d'autres ont eu comme moi besoin de mon pardon et qu'ils l'ont obtenu. Qu'ils l'ont obtenu. Il y a donc dans ce texte comme une volonté du Seigneur à nous contraindre avec toute la douceur et la subtilité qui le caractérise dans ce moment si particulier, si intime, à nous mettre à la place de ceux qui, à un moment donné ou à un autre, se sont trouvés dans la même situation que la nôtre. Alors que nous nous trouvons en train d'implorer le pardon de Dieu, parce que nous en avons besoin, parce que nous ne pouvons pas vivre sans, Jésus nous invite à nous mettre à la place de ceux qui nous adressent cette même requête. Pour pouvoir, comme nous, se relever, en étant libérés de la culpabilité, pour pouvoir retrouver, si c'est possible, avec nous, cette communion qui leur est, pour un certain temps en tout cas, si essentielle. Ainsi Jésus rappelle que nous ne pouvons pas dissocier, je le rappelle parce que c'est important, notre relation avec notre Père Céleste, de notre relation avec notre prochain. Que nous dit notre Seigneur Jésus pour nous rappeler ce lien inséparable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de la loi. C'est le résumé de la loi. Et Jean, l'apôtre, d'enfoncer le clou. Comment peux-tu affirmer aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois? Il y a comme une contradiction, comme une faille, une rupture en voulant séparer les deux. La difficulté de notre texte est dans ce qui pourrait ressembler à une forme de chantage de la part de Dieu. La question qu'on se pose en lisant notre texte, Dieu conditionnerait-il son pardon à ma capacité de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort? Alors je rappelle juste un texte 5.23, j'aurais dû le faire. Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Bon, c'est juste pour dire que je n'invente rien, hein, que c'est bien dans les textes de l'Écriture. Voilà, le pardon de Dieu sous condition. Alors j'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais je laisse le suspense. Pardon de Dieu sous condition. Notons tout d'abord l'aspect positif, me semble-t-il, en tout cas, de l'apprentissage de la requête. Jésus ne part pas du principe que nous avons échoué à pardonner, mais bien au contraire. La requête part de cet a priori positif, que nous avons accompli ce que le Seigneur attendait de nous. Nous avons pardonné. Et je trouve extraordinaire la pédagogie positive de notre Seigneur, pédagogie positive. Il ne voit pas dans son disciple un incapable ou un réfractaire au pardon, mais il voit dans son disciple un disciple victorieux, un disciple qui, à l'image de son Père Céleste, a pardonné, Il ne viendrait pas à Jésus, ne viendrait pas à l'idée de Jésus de penser que ses disciples puissent oser refuser aux autres ce qu'ils réclament pour eux-mêmes, de la part de leur Seigneur, le pardon. Ça ne lui vient pas à l'esprit, c'est impossible. Mes disciples ne sont pas incohérents, ils ne sont pas dépouillé de tout sens. C'est pas possible. C'est invraisemblable. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole du débiteur impitoyable? Cette parabole est là pour nous rappeler que parfois, la réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. Celui qui implore le pardon de Dieu vient lui demander de le libérer d'une dette, c'est le mot, hein. Le mot dette, hein, littéralement, qu'il ne pourra jamais d'une part rembourser et d'autre part jamais évaluer. On ne pourra pas évaluer. Comment est-ce que je peux évaluer la dette que je dois au Seigneur ? Dites-moi un prix. Dites-moi le prix de la vie de Jésus. C'est astronomique. Et mes amis, je vais vous faire une confidence. Nous sommes, vous et moi, dans une situation de surendettement. Surendettement. Parce que nous avons une dette à l'égard de notre Seigneur que nous ne pourrons jamais rembourser, ni en 3 fois, ni en 10 fois, à rien. L'éternité ne suffirait pas à rembourser la dette que nous devons au Seigneur. C'est la croix qui nous permet un peu d'évaluer, mais encore, on est devant la croix, là on mesure quelque chose. Qu'est-ce qu'on mesure devant la croix ? Ce que nous ne pouvons pas mesurer. Qu'est-ce que nous pouvons imaginer devant la croix ? Ce qui est inimaginable. Là, sur le bois, s'affiche en lettres de sang le prix du pardon dont j'ai été l'objet, ainsi que la source de la grâce immense qu'est l'amour du Père Céleste à mon égard. J'évoquais la parabole du débiteur impitoyable, ce débiteur qui doit, ce débiteur à qui on doit une somme infime, quelques euros, et qui va mettre en prison cet homme, alors que lui-même vient d'être délivré d'une dette immense, immense. Le Fils qui prie, le Père Céleste, vient à lui honteux et confus, dans l'humilité, et conscient de la dette immense, conscient de la dette astronomique dont il a été libéré, conscient qu'il n'en a pas fini avec le péché, et que ce pardon n'est pas une question de passé, c'est une question de présent continu. Présent continu. Et qu'il est encore toujours, il n'y a jamais dépendant du pardon divin. Certains pensent que cette dette, on ne l'apercevra plus dans l'éternité, mais quand nous serons dans le ciel, nous verrons encore l'agneau, avec les mains percées, qui nous rappelleront aussi que nous avions une dette immense et qu'elle était payée à prix fort, toujours dépendant du pardon divin. Il n'a donc pas pu faire ses disciples autrement que pardonner à son tour. Non pas par devoir, par obligation, le pardon ne peut pas être imposé, il est offert comme un cadeau, sinon ce n'est plus le pardon, n'est-ce pas ? Mais poussé par l'amour du Père à son égard, il ne peut qu'offrir à son frère ou à sa sœur, venu le lui demander, un pardon total, un pardon absolu. Poussé par la générosité du pardon du Père, il ne peut que pardonner à celui qui n'aura eu à son égard, en comparaison à la dette dont il a été libéré, qu'une somme modique à remettre. Pour le dire autrement et plus directement, la dette ou l'offense que l'on vous a fait, n'est rien par rapport à l'offense que nous avons fait à notre Père. N'est rien. Le scénario de la parabole du débiteur impitoyable est totalement improbable. Le scénario frôle la science-fiction. Mais comme je disais, quoique, avouons-le parfois, la science-fiction rejoint la réalité, parfois la dépasse. Nous nous sommes nous-mêmes retrouvés, nous nous retrouvons peut-être dans la peau de ce débiteur impitoyable. Nous nous retrouvons peut-être aujourd'hui même dans son attitude. Et la question revient, Dieu conditionnerait-il son pardon à celui que j'accorderais ou pas à mes frères ou à mes sœurs ? Réfléchissons un instant à ce que révélerait le cas improbable de celui qui, dégagé d'une dette immense, refuserait obstinément de pardonner. Il me semble que l'on serait en droit de se demander s'il a bien saisi la grâce divine. S'il a bien saisi dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, l'a-t-il compris ? L'a-t-il reçu ? Celui-ci serait si étranger à la grâce qu'une question légitime pourrait se poser. A-t-il lui-même conscience du besoin vital du pardon divin ? L'a-t-il vraiment demandé en toute sincérité, authenticité ? Sa demande ne serait-elle pas tout simplement vide de sens ? Elle est certes empreinte d'un vocabulaire religieux, mais pourrait n'exprimer aucune réalité de repentance et de dépendance à l'égard du pardon du Père Céleste. Sa prière « Pardonne-nous nos offenses » ressemblerait tout simplement à l'attitude des païens que Jésus dénonce plus tôt dans le sermon sur la montagne lorsqu'il parle de moulin à prière qui n'engage à rien. Le pardon ne peut être accordé que parce qu'à un moment donné ou un autre, le frère ou la sœur a compris que nous étions devant Dieu tous des offenseurs pardonnés, conscients de l'immensité de la grâce qui est faite. Voyez, ça nous amène à réfléchir sur notre prise de conscience du pardon de Dieu et de la manière dont nous le vivons. Le pardon nous est accordé parce que nous avons compris que nous étions devant Dieu tous des offenseurs pardonnés. Et enfin, pour ceux qui se réveillent seulement maintenant, j'arrive à mon dernier point, vous allez bientôt pouvoir enlever vos masques. Pardon de Dieu face au pardon humain. Oui, effectivement, cette prière aurait été plus facile à prononcer si Jésus nous avait enseigné à dire « Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés comme toi tu nous as pardonnés. » D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce n'est pas comme ça que nous lisons ce texte quelquefois. Vous savez, quelquefois cette tendance à vouloir chercher dans le grec, dans les meilleurs manuscrits, une interprétation qui nous arrangerait le mieux. J'ai tout fait. Je ne peux pas lire autrement ce verset que comme il est inscrit dans vos Bibles. Ça serait évidemment moins brutal et ferait dépendre notre démarche de l'action de Dieu dans notre vie. Mais cette façon de prier élèverait le pardon de l'homme à la hauteur du pardon de Dieu, ce qui est impossible, inatteignable, et Jésus le sait parfaitement. Mais en mettant en miroir le pardon de Dieu et le pardon de l'homme, le disciple est appelé immanquablement à réfléchir à la nature du pardon divin, à sa ressemblance, mais aussi à ses distances liées à son humanité. Car si Dieu calquait son pardon à notre pardon le plus abouti, il resterait de toute façon dans une distance infranchissable. J'aimerais juste, pour terminer, évoquer quelques aspects. Premier aspect, nous l'avons déjà dit, même si l'offense que nous a faite peut revêtir des aspects ignobles, elles n'égaleront jamais celles faites à notre Créateur. Ce qui s'est passé à la croix révèle le montant de la dette qui nous a été remise. Deuxième aspect, le pardon de Dieu, lui, est instantané. Lorsque nous venons vers Dieu, nous demandons pardon, nous savons, parce qu'il nous l'a dit, que le pardon est acquis. Il est donné. Dès que nous confessons notre faute, il nous pardonne. Il n'attend pas un centième de seconde pour nous offrir son pardon. Imaginez que comme nous, Dieu ait besoin de temps. On est dans la science-fiction, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Que sa douleur se calme, qu'il prenne le temps de réfléchir, voyez. Donc en demandant pardon à Dieu, puis il dit, attends, écoute, j'ai besoin de réfléchir un peu, j'ai besoin de me restaurer, j'ai besoin, oui, de guérir de ces blessures que m'a procuré ta faute. Nous repartirions de notre tête à tête avec le Père Céleste aussi lourd que lorsque nous sommes arrivés. En restant dans l'angoisse, en nous demandant s'il arriverait à surmonter l'offense. Et c'est parfois c'est ce qui arrive à ceux qui doutent du pardon de Dieu. Lui, le pardon de Dieu n'a pas besoin de temps, c'est instantané. Le pardon humain a besoin de temps. Un temps parfois salutaire. Non pas pour s'obstiner dans un refus, mais il a besoin de réaliser ce qui lui est arrivé, d'évaluer le traumatisme, et parfois aussi ce temps que seul l'apaisement de la douleur peut aider au pardon, le temps. Que de pardon accordé à nos frères et sœurs sans avoir pesé les dégâts de l'offense ont été des pardons accordés parfois par obligation, sous l'injonction d'un enseignement biblique sans nuance, sans humanité. Tu dois pardonner! C'est ton devoir. Oui, mais. Ce chemin qui mène au pardon a besoin de passer parfois par la colère, face au mal, au péché et à l'égard de ceux qui l'ont à un moment donné incarné. L'offensé a besoin de se remettre debout face à un traumatisme dévastateur qui a ravagé sa vie. J'ai accompagné quelqu'un qui était abusé par son grand-père. Chrétienne, je vais lui dire, tu dois pardonner ? Instantanément. Immédiatement. Comment oser lui imposer un pardon, ce qui est un chemin de guérison ? Ce chemin est parfois douloureux, souvent un combat, mais peut permettre, au contraire, d'évaluer pour qu'il prenne tout son sens, toute sa dimension. Et du coup, le pardon va être un pardon fait, avec toute la conscience, justement, du dégât provoqué. Parfois, le pardon que nous accordons, parce que le traumatisme n'a pas été évalué, parce que nous l'imposons par injonction, devient un pardon à bon marché. Volonté parfois de tourner la page. Il est à noter que chaque fois qu'il est question de régler un conflit, les évangiles placent celui qui doit parler à son frère sur un chemin. J'aime beaucoup l'idée du chemin. Va le trouver. Va le trouver. Comme si à chaque fois, il y avait un espace-temps important, essentiel pour la réflexion. Le pardon humain, immédiat, sans recul, et parfois la conséquence d'un déni. Déni d'une réalité qui fait si mal que nous ne voudrions ne l'avoir jamais vécue. Alors nous pardonnons pour que faire ? Pour tourner la page. Et nous passons à pieds joints par-dessus ce qui nous torture. En réalité, nous n'avons pas pardonné. Nous avons nié l'offense. Nous avons nié l'offense. Nous ne sommes pas Dieu et nous l'oublions si souvent. Nous le savons intellectuellement, bien sûr, mais nous l'oublions si souvent. Trois aspects sur lesquels je m'arrêterai très brièvement. Le pardon de Dieu rétablit la pleine communion avec notre Dieu. Il a oublié notre dette, en tout cas c'est tout comme, elle ne fait plus aucune ombre à notre relation. Nous, même lorsque nous avons pardonné, nous gardons en mémoire l'offense. Et c'est normal. Mais ceci fait parfois de l'ombre dans les relations avec notre ex-offenseur. Il s'agira d'un long combat pour que cette ombre laisse place à la lumière de la communion, pour aller vers un peu plus d'initiation du pardon du Père, d'imitation, pardon, du pardon du Père. Mais il est des offenseurs auxquels nous avons accordé notre pardon et qu'il faut maintenir à distance. Le pardon n'implique pas forcément rétablissement de la communion fraternelle. Pour notre propre sécurité physique, parfois, lorsque nous avons à faire face à quelqu'un de violent, l'offense a été d'une telle gravité que l'on ne peut pas et ne doit pas désirer rétablir une communion. Je rappelle simplement l'exemple que je citais plus tôt, cette fille abusée dont la vie a été fracassée par son grand-père. Je lui dis, il faut que tu rétablisses la communion avec ton grand-père ? Sûrement pas. Maintiens-le à distance, même si le pardon a été accordé. Même si le pardon a été accordé. Nous ne sommes pas Dieu. Cela n'enlève rien à la qualité du pardon. Et cet aspect rejoint l'attente du Père. Son pardon nous est acquis, certes. C'est le dernier aspect, pardon. Mais faut-il encore que nous le demandions, ce pardon ? Comment est-ce que Dieu nous pardonne ? Lorsque nous lui demandons, alors il y a parfois des fautes qui sont faites de manière inconsciente, la personne ne sait pas. Le pardon est disponible. Mais le Seigneur nous veut responsables devant lui et que nous assumions ce que nous avons fait. Attendre de l'offenseur une reconnaissance de la faute commise à notre encontre, ce n'est pas attendre qu'il paie. Ne confondons pas pardon et rétribution. Mais il est question à la fois de justice, mais aussi de considération de la personne. Il est responsable, je le considère comme tel. C'est ainsi que notre Père nous considère dans notre relation avec lui, responsable. Responsable et coupable, hein, pas confondre la formule, responsable et coupable. Et j'en arrive vraiment à la conclusion, la tentation du refus du pardon. Il nous faut conclure en revenant plus étroitement sur le passage qui nous a occupés. La requête est séparée de son commentaire par cette autre demande. Garde-nous de céder à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis longtemps posé, pourquoi il y a cette phrase ? Pourquoi est-ce qu'elle vient là ? Comme un cheveu sur la soupe, hein ? L'impression, vous n'avez pas cette impression, vous aussi ? Étonnante cette insertion. Traitée indépendamment du pardon, elle tombe donc comme un cheveu sur la soupe. En revanche, si on la lie à la démarche du pardon, alors elle occupe une bonne place. La tentation dont il est question ici vise probablement en particulier celle du refus obstiné de pardonner. La tentation de garder définitivement nos offenseurs repentants des débiteurs permanents. Elle n'est pas sans lien avec l'avertissement que le Créateur adresse à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. S'entêter dans le refus d'un pardon, s'entêter dans la clarification de la relation avec son frère ou sa sœur, c'est courir le risque que le péché domine sur nous et prenne le pas, le dessus, en nous faisant nourrir une haine dévastatrice, et laisse le malin s'introduire dans nos relations fraternelles, qui tue l'unité de la communauté. Garde-nous, Seigneur, de céder à la tentation de la haine. C'est ma prière. Garde-moi, Seigneur, de céder à la tentation de la haine, de l'amertume et de la rancœur. Aide-moi, Seigneur, à entrer dans le chemin du pardon que toi-même tu as tracé pour moi. En Algérie, j'ai l'habitude de terminer par Amen.